Donc on est en acte 9 et on va commencer par lire ensemble ce qui est en fait la conversion vraiment de l'apôtre Paul, conversion à Jésus-Christ. On va lire d'abord les 9 premiers versets, acte 9. Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main, et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Alors d'abord, pour introduire qui est Saul de Tarse, donc c'est un jeune juif zélé dans son pharisaïsme, zélé dans le judaïsme. On lit qu'il était au pied de Gamaliel, donc Gamaliel, un docteur de la loi. Il recevait l'enseignement de Gamaliel. Par lui, il a appris toutes les exigences de la loi, tout l'Ancien Testament. Il a appris tous les commandements des Écritures. Mais malgré qu'il ait appris toutes ces choses, il y a une chose qu'il n'a pas appris de Gamaliel. C'était plus au niveau du cœur de Gamaliel. C'était la sagesse, c'était le discernement de Gamaliel. On le voit parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais un petit peu plus tôt, regardez acte 5. Regardez ce qui s'est passé. Gamaliel va dire une parole de sagesse concernant les apôtres. Acte 5, on va lire les versets 34 et 35. Donc, même 33, au sujet des apôtres, ils étaient furieux contre eux, ils voulaient les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le Sanhédrin et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit, « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. » Et regardez versets 38 et 39. « Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes, laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Et on imagine bien Gamaliel ici, avec la sagesse du temps, de ses cheveux blancs. Il avait une clairvoyance, un discernement, une sensibilité à la voix de Dieu. Et ça, eh bien, Saul ne l'a pas reçu de lui. Il était à ses pieds, mais il ne l'a pas reçu de lui. Au contraire, Saul était remonté plus que jamais contre les chrétiens. On le voit, en fait, pour lui, c'était de la trahison, que Jésus-Christ n'était pas le Messie. Donc, c'était de la trahison que de vouloir prêcher Jésus-Christ. Même quand Étienne avait été lapidé, Saul a approuvé. Il dit très bien, gardez les vêtements, il a vu ça, il a dit c'est bien, et qu'on continue. Il est dit, on l'a lu, hein, il respirait la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur. Quelle était son intention? Donc il demande des lettres pour les synagogues de Damas. Il voulait des lettres afin de les amener donc à tous les principaux qui étaient à Damas, afin qu'on lui livre les chrétiens qui étaient dans les synagogues. Donc il voulait empêcher la propagation de l'évangile. Dieu voulait que l'évangile se répande jusqu'aux extrémités de la terre. Paul veut retenir et empêcher l'évangile de se répandre. On se demande, mais quelle est la volonté qui va triompher sur l'autre? Et on voit dans la suite, verset 3, c'est évident. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il y a un passage parallèle un petit peu plus loin que l'on ne va pas prendre, mais on apprend que en fait il était midi. Donc le soleil était à son zénith, il y avait une pleine lumière. Mais Saul voit une lumière qui est plus forte que le soleil, qui l'éblouit, il en tombe par terre, et même ils sont tous tombés par terre. Tous devant cette lumière très forte. Et soudain, cette voix qui lui dit, verset 4, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Et Dieu s'adresse à l'homme et il lui pose une question. Une question simple, une question qui est directe, et pour l'amener à réfléchir sur lui-même. Sur ce qu'il est, sur ce qu'il fait, sur sa vie, sur son cœur. On pourrait prendre toutes les questions que Dieu pose à l'homme dans la Bible. Il y a une autre question, une question que Dieu a posée à Adam et Ève. Vous vous souvenez, dans le jardin, ils ont péché et ils sont allés se cacher sous les arbres. Et là, Dieu leur pose une question pleine de sens. Il appelle à l'homme et lui dit « Où es-tu ? Où es-tu ?» Et Dieu peut aussi nous poser cette question « Où es-tu ? » Ça signifie « Où tu te caches ? Où te caches-tu ? Pourquoi te dérobes-tu à ma face ? Pourquoi ne veux-tu pas venir devant moi ? Où en es-tu avec moi ?» Et le péché, vous savez, dans nos vies, ça nous fait fuir la face de Dieu. On se cache, on n'a pas envie de se présenter devant le Seigneur parce qu'on ne veut pas entendre certaines choses. On veut fuir la lumière de Dieu. La Bible dit, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. À cause du péché, à cause des œuvres mauvaises, les hommes fuient la lumière, ne veulent pas venir à la lumière. Et l'homme, eh bien, se pourrait entendre cette voix qui lui dit, où es-tu de la part de Dieu? Et la meilleure chose qu'on puisse faire, eh bien, c'est de sortir de l'ombre et de venir dans la lumière de Dieu et se présenter à Dieu tel que l'on est. Pourquoi? Parce que c'est une illusion de se cacher devant Dieu. David l'a dit dans un psaume, psaume 139, verset 7, si vous voulez, vous pouvez le prendre. Psaume 139, verset 7, il a dit « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. » Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Et on ne peut pas se cacher du Seigneur, c'est impossible. Et il y a une chose importante concernant les questions que Dieu pose. Quand Dieu pose une question à l'homme, c'est pas qu'il est en train de s'interroger lui-même sur la réponse. Dieu sait tout. Mais quand il pose la question, c'est plutôt une question pour nous, c'est pour que nous réfléchissions à nous-mêmes. Où en suis-je avec le Seigneur ? Où suis-je aujourd'hui, là, avec le Seigneur, devant Dieu ? Où en suis-je ? Est-ce que je me cache ? Une autre question du Seigneur. Il a dit, après Adam et Ève, ils eurent des fils, Caïn et Abel, et il va dire à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Dieu sait où est son frère Abel, bien sûr. Mais Dieu veut lui faire réfléchir sur ce qu'il a fait, sur son cœur. Et il attend quoi ? Une confession ? Eh bien, « Oh pardon Seigneur, j'ai tué mon frère Abel. » Non, ce n'est pas ce que Caïn va faire. Il va dire « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Non, je ne veux pas rester dans la lumière. Je veux pas répondre à la question de Dieu. Alors que s'il avait simplement dit « Pardon Seigneur. » Pardon, j'ai commis un meurtre. Et de la même manière, Dieu dit à Saul de Tarse, pourquoi me persécutes-tu ? Il vient, en fait, exposer le cœur de Saul de Tarse. Il dit, mais regarde-toi, tu es en train de faire une chose mauvaise. Tu es un persécuteur. Et c'est le péché de Saul qui est dévoilé. Pourquoi me persécutes-tu ? Quelle est la réaction de Saul ? Verset 5, il dit, il répondit, qui es-tu, Seigneur ? Qui es-tu ? Et là, on voit l'ignorance de Saul. On voit que finalement, il ne connaît pas son Dieu. Pourtant, il était religieux, il était pieux, Il faisait des aumônes, il faisait des prières, il avait du zèle, même pour mettre en pratique la loi de Dieu. Il était scrupuleux. Donc on pourrait dire que c'était un serviteur de l'Éternel à sa manière. Et pourtant là, on voit, il ne le connaît pas vraiment. Pourquoi ? Parce qu'il n'est jamais passé par cette rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ, avec le Fils. Et on retrouve ici l'image de beaucoup de croyants qui sont sur terre. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui veulent aimer Dieu, qui veulent servir Dieu à leur manière, dans leur religion, qui veulent faire des œuvres, qui veulent faire des choses, des dévotions. Mais si Jésus-Christ se présentait à eux, il dirait « Qui es-tu, Seigneur ? Qui es-tu ? Je ne le connais pas. » Ils ne le connaissent pas véritablement. Ils ne sont pas entrés dans une vraie communion, une vraie relation avec le Seigneur. On peut dire que l'on croit en Dieu, que l'on aime Dieu, et même que l'on sert Dieu, mais tant qu'on n'a pas fait une vraie rencontre avec le Père au travers du Fils, alors eh bien on ne le connaît pas encore véritablement comme on devrait le connaître. La Bible dit, le Fils est l'empreinte de sa personne. Il est le reflet de sa gloire. Il est le médiateur qui nous permet d'entrer dans la communion du Père. Il est Dieu. Il faut rencontrer le Fils pour connaître le Père. Et ça, c'est ce qui manquait à Saul de Tarse, une rencontre avec le Fils. Le Seigneur lui dit alors, verset 5, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Imaginez le choc pour Saul. Jusqu'à présent, il disait, mais c'est un faux Christ, c'est un faux Messie, c'est pas vrai, c'est un mensonge, une usurpation, un gourou d'une secte, un illuminé, un faux prophète. Et d'un seul coup, il se retrouve devant cette vision de Jésus-Christ ressuscité. Parce que c'est ça, c'est Jésus-Christ ressuscité qu'il voit. Vous savez, il l'a associé à Jésus-Christ ressuscité dans ses propres paroles. En 1 Corinthiens 15, ne le prenez pas, je vous le lis, Paul dit, il est apparu à Céphas, c'est-à-dire à l'apôtre Pierre, puis il est apparu aux 12, ressuscité. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants, et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, les envoyés, et après eux tous, Paul dit, il est apparu à moi. Comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et donc, on voit bien, Paul ici l'associe comme étant l'apparition de Jésus-Christ ressuscité. Et c'est ce qui faisait de lui aussi un apôtre. C'est qu'il a vu Jésus-Christ ressuscité. Et on voit dans ses propres paroles qu'il a pris la mesure de ce qu'il avait fait. J'ai persécuté l'Église de Dieu. Je suis le plus indigne, l'avorton. Et lorsque le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes, c'est comme s'il lui dit, Saul, tu es en train de me faire du mal, tu es en train de me frapper quand tu frappes les chrétiens. Ça doit nous faire réfléchir aussi dans l'Église. Hein. Tu es en train de faire du mal quand tu frappes les chrétiens. Tu es en train de faire du mal quand tu dis du mal des chrétiens. Tu es en train de faire du mal à Christ si tu fais du mal à ton frère ou à ta sœur. Et dans cette parole, il y a une dénonciation de son péché. Saul, tu es un persécuteur, tu es un pécheur. Et dans une rencontre sincère avec Dieu, il y a toujours une prise de conscience du péché. L'homme a tendance à minimiser son péché, et sans aucun doute, Saul se sentait pur devant Dieu. Lui, tout allait bien, il pratiquait la loi de Dieu. Et pour lui, c'était des blasphémateurs en fait, les chrétiens. Ils étaient en train de dire que Jésus-Christ était le Messie, qu'il était le Fils de Dieu. C'était des blasphémateurs. Donc pour lui, les faire enfermer, eh bien c'était bien. C'était défendre la vérité. Mais il était aveugle. Il y avait un voile sur son cœur. Et une vraie rencontre avec le Seigneur, ça se passe par une prise de conscience de son péché. On réalise la réalité de son péché. Même Saul, en pratiquant avec ferveur sa religion, était perdu. Et le Seigneur va ajouter quelque chose, il dit verset 5, « Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Autrefois, on dirigeait les bêtes, les bœufs avec un aiguillon, hein, et ils pouvaient pas, eh bien, ils restaient dans le droit sillon. Sinon, eh bien, ça leur faisait mal. Et si Saul, autrefois, faisait ce qu'il voulait, il va découvrir soudain que, eh bien, Jésus, c'est le Seigneur. On l'a chanté tout à l'heure. Jésus-Christ est Seigneur. Parce que Jésus lui montre qu'il n'a pas le choix. Comme un bœuf qui n'a pas le choix de faire ce que son maître lui dit de faire et la direction qu'il doit prendre, il n'a pas le choix. Il ne pourra pas continuer dans sa méchanceté à l'égard des chrétiens. Dieu a une volonté et lorsqu'il impose sa volonté, il n'y a rien à faire qu'à se soumettre et se courber, accepter. Il est le Seigneur. Et si on ne connaît pas Jésus comme son Seigneur, eh bien on ne le connaît pas réellement. D'ailleurs, si on n'arrive pas à prononcer ce titre de Seigneur Jésus-Christ lorsqu'on prie, il est probable qu'on ne soit pas encore enfant de Dieu. Parce que eh bien, le cœur du chrétien confesse Jésus-Christ Seigneur. Et puis il y a une chose que l'on apprend aussi dans la marche avec le Seigneur, c'est que Dieu a une volonté. Et en dehors du chemin que Dieu nous trace, on se fait mal. On se fait du tort à soi-même. C'est pas une bonne chose. À coup sûr, on se blesse en dehors du chemin du Seigneur. Dieu a une volonté. On lit dans les Actes au chapitre 26 que, ne le prenez pas, mais Paul va raconter son témoignage au roi Agrippa. Et il va conclure en disant, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Voilà. Je ne pouvais pas résister. Je me suis courbé. Et j'ai fait ce que Dieu voulait. Verset 6. Tremblant et saisi d'effroi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Et le jeune Saul de Tarse, qui était plein de force, qui était plein d'audace, de violence, d'orgueil, soudain, il est tremblant, saisi d'effroi. Ça ressemble pas au Paul plus tard que l'on connaît, hein. On connaît son caractère. Saul, là, est tremblant, il est saisi d'effroi, et il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et on peut dire qu'une des plus grandes victoires qu'un homme puisse remporter dans sa vie, c'est prendre conscience de sa faiblesse, de son ignorance et de son incapacité. Notre tendance naturelle, la tendance du péché, c'est celle de l'assurance. Nous savons, nous sommes capables, nous pouvons. Ça, c'est notre tendance naturelle. Et Dieu peut permettre des épreuves, des brisements, des humiliations qui nous rendent comme Saul. Pour lui, on peut dire que c'était vraiment un électrochoc. Il voit la vision glorieuse de Jésus-Christ dans toute sa force, la force de sa parole, dans toute sa clarté. Dieu n'agit pas toujours de la même manière avec les hommes. Nous n'avons pas tous vu Jésus-Christ comme lui, mais le but est toujours le même. Dieu veut nous amener à nous courber devant lui. Et à reconnaître, tu es le Seigneur. Souvent, ça s'opère dans le temps. C'est un travail de fond que Dieu opère dans notre vie. Ça peut être par le travail, par la vie professionnelle. Ça peut être dans la famille, ça peut être dans l'église, par nos frères et sœurs. Ça peut être dans le couple, ça peut être avec les enfants. Il y a plein de circonstances dont Dieu se sert pour nous conduire vers cette question où on dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Jésus a dit cela d'une autre manière à son Père. Jésus a dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. La Bible dit, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Et c'est quelque chose que l'on apprend quand on aime Dieu, quand on veut aimer Dieu, c'est qu'on apprend à soumettre sa volonté et à entrer dans la dépendance avec le Seigneur. Naturellement, nous sommes dans l'indépendance, mais on apprend la dépendance. Faire ce que Dieu veut en premier. Paul va dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et par cette question, on comprend que Saul reconnaît que Jésus est le Seigneur et qu'il est son Seigneur. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je me courbe, j'accepte. Quelqu'un a dit un jour concernant sa relation avec Dieu, Jésus était pour moi le roi et moi j'étais son premier ministre. Mais vous savez, un peu comme en Angleterre, où la royauté et le gouvernement sont bien séparés. Hein. Et si le premier ministre s'incline hein, devant la reine, quand il rentre dans son cabinet, il fait ce qu'il veut. C'est lui qui gouverne. Et Jésus ne veut pas être notre roi de cette manière. Il dit à ses disciples, « Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Je suis le maître, je suis le seigneur. » Ça, c'est ce que Dieu veut que l'on comprenne, que l'on accepte. Et quand on l'a compris, on dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et c'est une grande victoire pour l'homme que de comprendre sa faiblesse, son ignorance, son besoin de Dieu. Le Seigneur lui dit alors, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Un ordre clair ici, lève-toi, entre dans la ville. Et Saul va s'exécuter, il va obéir. Et on peut dire ce premier acte d'obéissance va être suivi de plein d'actes d'obéissance comme ça. Et c'est après, on voit ici l'image de la vie de Saul qui deviendra Paul. Chaque fois que Dieu va lui dire, lève-toi et va, hop, il y va, à chaque fois. Et pour être un vrai serviteur de Jésus, il faut obéir à Jésus. Et l'œuvre du Seigneur, c'est justement nous apprendre l'obéissance. Il veut qu'on soit malléable entre ses mains, non pas pour user d'une autorité qui est abusive sur nous, mais simplement pour qu'on comprenne ce qui est dans notre intérêt. Le Seigneur a toujours raison. Il a toujours raison. S'il dit stop, il a raison. S'il dit va par là, il a raison. Il a toujours raison. Il est plus sage que nous. Et c'est l'expérience dans la vie chrétienne qui nous montre, Seigneur, je sais que tu as raison. Alors, mais je discute même plus. Si tu dis, je vais. Jean 12, 24. Chapitre 12 de l'évangile de Jean, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et on retrouve ici l'idée de soumettre sa volonté. On doit être comme ce grain de blé qui meurt à soi-même. Et voilà, c'est finalement la capitulation. On accepte la volonté d'un autre, la volonté de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'est plus une volonté et qu'on ne peut plus exercer sa volonté. Mais on reconnaît qu'il y a une volonté qui est supérieure à la nôtre, celle du Seigneur. Et on accepte cette volonté supérieure à la nôtre. Saul était parti pour persécuter les chrétiens de Damas. Il s'arrête et il reconnaît qu'il y a une volonté qui est supérieure. Je l'accepte. Versets 8 et 9. Saul se releva de terre et quoique ses yeux soient ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main et on le conduisit à Damas. Il resta 3 jours sans voir et il ne mangea ni ne but. Imaginez ce que fut pour Saul de Tarse ces 3 jours d'obscurité. 3 jours dans le noir complet. 3 jours de profonde remise en question. Il pensait qu'il était juste. Il pensait que la justice allait s'obtenir par la pratique de la loi. Il pensait qu'il avait raison de persécuter les chrétiens. Il pensait que le Messie n'était pas encore venu. Il pensait que les religieux juifs avaient eu raison de crucifier Jésus, l'imposteur. Il s'était fait remarquer pour son zèle contre les chrétiens. Tout le monde connaissait Saul de Tarse. Il était jusqu'à présent sûr de bien faire. Et d'un seul coup, toute sa justice, toute son assurance, tout ça, ça vole en éclats. c'est explosé. Pendant ces 3 jours, il a cette vision de cette lumière resplendissante de Jésus-Christ dans sa gloire. Et puis, ces 4 paroles du Seigneur qui devaient lui revenir en boucle. « Pourquoi me persécutes-tu ? Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Lève-toi, entre dans la ville. On te dira ce que tu dois faire. » 4 phrases qui devaient lui revenir dans le cœur. Et c'est tout son monde de pharisiens judaïques qui s'est effondré durant ces 3 jours d'obscurité. Toutes ces certitudes ont été détruites et ont été remplacées par de nouvelles certitudes. Alors il s'est dit, mais c'est vrai, Jésus-Christ, il est le chemin, il est la vérité, il est la vie, comme il l'a dit. Alors c'est vrai, Jésus est le Messie d'Israël, il est le lion de la tribu de Juda, il est loin de l'Éternel. Alors c'est vrai, les disciples sont d'authentiques témoins de l'Éternel, de Jésus-Christ, de la vérité. Alors c'est vrai, cet enseignement de Jésus-Christ disant que se repentir et croire en lui, eh bien cela donne la vie éternelle, cela sauve un homme. Imaginez tous les parallèles qu'il a dû faire avec la compréhension des Écritures qu'il avait. Parce qu'il connaissait la loi. Il connaissait l'Ancien Testament. Il était rompu de la parole de Dieu. Immédiatement, ça a dû se mettre en place dans son esprit. Jésus est mort le jour de la Pâque. Mais c'est vrai, il disait l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il est né à Bethléem. Mais Michée disait loin, naîtra à Bethléem. Il a tant souffert sur cette croix. Mais Ésaïe en parle dans sa prophétie. Et c'était comme les pièces d'un puzzle qui ont dû se mettre dans son cœur en disant, mais oh, merveilleux Seigneur, merveilleux Jésus-Christ et mon Dieu. Il était aveugle et maintenant il voyait. Et j'aimerais qu'on lise la suite. Donc, on se penche vers un autre serviteur du Seigneur. Versets 10 à 19, acte 9. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit, dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur !» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias, qui entrait et qui lui imposait les mains, afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur !» J'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles. Il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé. Et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Ici, on a un autre disciple, donc Ananias. Il avait appris à marcher avec le Seigneur, Ananias. Et on voit en lui, ça y est, déjà un disciple qui est docile, qui est malléable dans les mains de Dieu. Il est ce que Dieu veut que nous soyons. Lorsque le Seigneur lui apparaît et lui dit, Ananias, tout de suite sa réaction c'est, me voici Seigneur, je suis prêt. C'est un petit peu comme avec Ésaïe. Le Seigneur dit, qui enverrai-je? Et à ce moment-là, l'enfant de Dieu va dire, me voici, envoie-moi. Tout de suite, il est prêt. Et on peut dire qu'un enfant de Dieu qui marche avec le Seigneur, il acquiert une promptitude au service. Il est prompt à servir. Mais Ananias va entendre quelque chose qui va lui faire froid dans le dos. Lève-toi et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Ananias a dû dire, oh non, pitié, pas lui. Saul de Tarse, il n'y avait pas de texto, il n'y avait pas d'email, mais la nouvelle s'était déjà répandue plus vite que Twitter ou quoi que ce soit. ça avait fusé, Saul de Tarse, ennemi des chrétiens. Saul de Tarse qui fait du mal à l'église de Dieu. Et le Seigneur lui dit, va, car cet homme que j'ai choisi, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi, devant les fils d'Israël. Et dès qu'il entend « va », et cet ordre, eh bien, il obéit. Et on en apprend un petit peu plus sur Saul. Il est dit que Saul a été choisi pour une tâche bien particulière. Toute la connaissance des Écritures qu'il avait, tout ce qu'il avait appris au pied de Gamaliel, et puis aussi ce qu'il était dans sa personne, hein, un fonceur avec un zèle naturel, une énergie, un amour pour Dieu. Tout cela, Dieu allait s'en servir. On sait que Saul n'a pas été choisi au hasard, mais il a été choisi pour une tâche bien particulière, hein, en fonction de ce qu'il était, de sa personne. Dieu avait l'instrument qu'il avait préparé, qu'il souhaitait pour porter le nom de Jésus. Et Dieu ne demande pas la même chose à chacun de ses enfants. Mais on sait une chose, c'est que Dieu a choisi chacun de ses enfants et qu'il a préparé des œuvres afin que nous les pratiquions. Ça, c'est certain. Dieu vous a choisi chacun et il a des œuvres préparées pour vous. On n'est pas forcément des Saul de Tarse, mais on peut être simplement un Ananias qui vient ouvrir les yeux à un Saul de Tarse. Hein. Et là, eh bien, il y a une grande bénédiction. Il y a plein d'œuvres et de choses que Dieu veut que nous fassions et que nous faisions. Et il se glorifie dans nos faiblesses. Il a dit à ses 12 apôtres, vous vous souvenez, les 12 étaient pour la plupart des hommes qui étaient très simples, et il leur a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, hein, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Et c'est inversé pour nous aujourd'hui encore, c'est que Dieu a des œuvres préparées pour nous. Il nous a choisis afin que nous allions et que nous portions du fruit. Et ce n'est possible que si nous sommes des instruments qui sont malléables, que si nous disons, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur va pas dire, ben non, j'ai rien pour toi. Non, excuse-moi, là, y a rien à faire. Reviens dans une semaine, je verrai. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je me soumets à toi. Je veux aller là où tu veux que j'aille. Je veux parler là où tu veux que je parle. Je veux te servir. Maintenant, un autre aspect de l'appel de Saul, c'est aussi la souffrance. Le Seigneur a dit, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Et on connaît la suite du ministère de Saul qui deviendra Paul, un ministère qui est plein de fruits, mais un ministère aussi qui va être abondant en souffrance. Et il y a les deux qui vont ensemble. Hein. La souffrance fait aussi partie de la vie chrétienne. Dieu veut se servir de nous, Dieu veut qu'on passe aussi par la souffrance, il se sert de tout et il se glorifie dans ses œuvres. Ananias va donc venir à Saul, il va lui imposer les mains afin qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Et verset 18, il est dit, au même instant, il tomba de ses yeux des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Et là, c'est les 3 jours d'obscurité qui s'achèvent, ces 3 jours de remise en question, de réflexion. Et presque immédiatement, que va faire Saul? Donc, il était à Damas, il va rester encore quelques jours à Damas, et regardez versets 20 à 22. Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem, ceux qui invoquaient ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Et on voit ici que il n'a pas mis longtemps, hein. Tout s'était mis en place dans son cœur, et il prenait les Écritures. Et ce qui est incroyable, c'est que il allait rentrer dans cette synagogue pour faire lier les chrétiens. Et il rentre dans la synagogue et il dit « Jésus est le Fils de Dieu ». et le montre par les Écritures. Et on voit comment Dieu peut retourner une situation. C'est encourageant, ça. Des fois, on se dit, mais c'est pas possible. La situation, là, c'est la fin. Et Dieu retourne la situation. Et c'est le contraire qui se passe. On a un grand Dieu qui peut faire des grandes choses et qui peut retourner des situations. Et là, eh bien, il va prouver, démontrer aux Juifs, mais il est le Messie. Croyez en lui à cause de ce verset, de ce passage. Pour conclure, résumer, cette histoire de la conversion de Saul, elle nous montre que on peut aimer Dieu, on peut avoir l'impression de servir Dieu et en même temps être en décalage avec la volonté de Dieu et ce que Dieu attend de nous. Il faut faire attention. Si on n'est pas passé par la conversion à Jésus-Christ, alors on peut être en décalage. On croit qu'on sert Dieu, mais on ne sert pas Dieu. Cette histoire nous montre aussi que parfois on croit connaître Dieu, mais s'il se présentait à nous, on dirait « Mais qui es-tu, Seigneur ?» Cette histoire nous montre aussi qu'une des grandes victoires pour un homme, c'est de prendre conscience de sa faiblesse, de son besoin de Dieu. Cette histoire nous montre que la vraie connaissance de Dieu, ça passe obligatoirement par Jésus-Christ. Il est le médiateur. Il a versé son sang et il est le seul moyen d'entrer dans la communion, dans la relation, dans la présence de Dieu. Sans Jésus-Christ, c'est impossible. Il faut avoir reconnu Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui a versé son sang pour nos péchés. Et puis enfin, cette histoire nous montre que lorsque on reconnaît Jésus-Christ, lorsqu'on croit en lui, eh bien, on découvre qu'il est le Seigneur et qu'il a des œuvres qui sont préparées pour nous. Et il nous choisit afin que nous fassions quelque chose pour lui. Donc le but de cette vie, c'est rencontrer Dieu par Jésus-Christ et après servir Dieu au travers de Jésus-Christ. On va s'incliner dans la prière.